France Culture.
Bonjour à toutes et à tous. De lourdes peines de prison prononcées en Tunisie. 40 opposants ont été jugés par un tribunal pour complot contre la sûreté de l'État. Une nouvelle image de la dérive autoritaire du pouvoir de Kais Saied. Nous serons à Tunis dès le début de ce journal. La Cour suprême américaine suspend l'expulsion de migrants vénézuéliens. La juridiction s'oppose à Donald Trump qui les accusait de faire partie de gangs. En cause notamment la mauvaise utilisation d'une loi vieille de 200 ans. Enfin, en pleine coupe budgétaire américaine dans la recherche, la France veut accueillir des chercheurs et chercheuses venus des États-Unis. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, appelle ce matin à un effort européen. Jusqu'à 66 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État. Voilà la sanction la plus lourde prononcée en Tunisie dans un procès sans précédent. Le régime accuse une quarantaine de personnes, dont des figures de l'opposition, d'adhésion à un groupe terroriste. Sur les 40 accusés dans cette affaire, 8 sont actuellement en détention et plus de la moitié ont fui à l'étranger. Les avocats dénoncent une mascarade judiciaire et un procès politique symbolique de la répression envers l'opposition. Précision sur place de Lilia Blaise.
Des sentences très lourdes auxquelles s'attendaient les avocats de la défense pour un procès hautement politique. 40 personnalités politiques, membres de la société civile, hommes d'affaires ainsi que d'anciens députés ont été condamnés ce samedi à des peines allant de 13 à 66 ans de prison dans le cadre d'un procès atypique. Il n'a jamais vraiment eu lieu. Seulement 3 audiences se sont déroulées entre début mars et avril. Lors de ces sessions, les prises de parole des avocats ont porté sur la forme sans que le juge aborde le fond de l'affaire. Car la défense, composée de plus de 200 avocats, a dénoncé à de nombreuses reprises le non-respect des conditions d'un procès équitable. Des détenus forcés de comparaître en visioconférence à leur audience, ordre que la plupart ont décliné, une absence de preuves tangibles dans le dossier du complot, des détentions préventives qui ont dépassé les délais réglementaires, autant de vices de procédure, selon les avocats, qui rendaient ce procès impossible. Vendredi, lors d'une ultime audience, ils se sont révoltés contre le juge qui a voulu lire les chefs d'accusation alors que plusieurs problèmes persistaient sur la procédure et le déroulement du procès. L'audience de vendredi a été interdite d'accès aux journalistes et aux représentations diplomatiques, contrairement aux deux précédentes sessions, et elle s'est déroulée dans un contexte plus que tendu.
Lilia Blaise pour France Culture à Tunis. L'ONG Human Rights Watch dénonce de son côté un procès tenu dans un contexte répressif. En février, c'était le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme qui avait dénoncé la persécution des opposants. Aux États-Unis, c'est une épine de taille dans le pied de Donald Trump qui s'était engagé à expulser des millions de sans-papiers. La Cour suprême suspend jusqu'à nouvel ordre le renvoi de Vénézuéliens soupçonnés d'appartenir à un gang criminel. Le locataire de la Maison-Blanche s'était appuyé sur une loi du XVIIIe siècle pour justifier sa lutte contre l'immigration clandestine. La plus haute juridiction américaine juge qu'il a eu tort. Les explications d'Isabelle Labéry.
Cette loi de 1798, Donald Trump en a fait un marqueur de sa politique migratoire. En temps de guerre ou en cas d'invasion prédatrice, ce sont les mots utilisés, elle autorise en effet le président des États-Unis à expulser les ressortissants d'un pays ennemi sans avoir à les faire passer devant un tribunal. Elle a déjà permis à l'administration américaine de renvoyer 150 Vénézuéliens accusés d'appartenir à l'un des groupes criminels les plus redoutés du continent, Tren de Aragua. Le 15 mars, ils ont rejoint par avion une prison au Salvador. Un nouveau groupe, détenu au Texas, s'apprêtait hier à suivre le même chemin. C'est ce qui a motivé le recours en urgence de l'Union pour les libertés civiles et la Cour suprême a suivi. D'abord, appliquer la loi de 1798 alors même qu'un juge fédéral l'avait suspendue revient à contourner les procédures légales. Ensuite, la question des preuves. De nombreux expulsés n'avaient aucun casier. Certains ont même été catalogués membres du gang sur la seule foi de leur tatouage. Enfin, réveiller cette loi en temps de paix est un fait sans précédent qui relève d'un abus de pouvoir. Voilà de quoi nourrir le feuilleton des démêlés judiciaires de l'administration Trump. La Maison-Blanche ne peut pas contester la décision de la Cour suprême, mais elle peut tenter de faire passer une nouvelle loi au Congrès pour parvenir à ses fins.
Isabelle Labéry. Le vice-président américain J.D. Vance est de son côté à Rome en ce week-end de Pâques. Il doit y rencontrer le numéro 2 du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, ainsi que Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États, le tout sur fond de profondes dissensions sur l'immigration, notamment avec le Vatican. Hier, le dirigeant a échangé avec Giorgia Meloni, elle-même présente à Washington jeudi. Une semaine donc à l'accent américain pour la première ministre italienne. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Rome. Giorgia Meloni a-t-elle privilégié les intérêts italiens ou s'est-elle comportée en dirigeante européenne ?
Alors en tout cas, Trump et Vance l'ont couverte de compliments. L'idée qu'elle est une alliée privilégiée des États-Unis est renforcée après cette semaine. D'ailleurs, Trump a accepté une invitation en Italie. L'événement pourrait être élargi aux partenaires européens. On pense bien sûr au dossier des droits de douane avant le mois de juin, espère-t-on, à Rome. Mais une série d'engagements entre Italie et USA intrigue dans ce contexte de tension Europe-États-Unis. La taxation des entreprises américaines du numérique, par exemple, est une arme de rétorsion possible pour Bruxelles. Or, le communiqué, après la rencontre de Washington jeudi, plaide pour un environnement non discriminatoire et salue les investissements américains dans ce domaine en Italie. La défense aussi, alors qu'un renforcement d'une défense européenne est en discussion, nous sommes prêts à renforcer la coopération Italie-USA, écrivent les deux dirigeants. Giorgia Meloni a eu un long échange téléphonique hier avec Ursula von der Leyen, façon de dire qu'elle agissait c'est aussi dans un cadre européen. Et puis vous le disiez, la rencontre a eu lieu. Vance a enchaîné avec une séance avec le numéro 2 du Vatican ce matin pour essayer d'apaiser les nombreux sujets de divergence entre le Saint-Siège et Washington. Le communiqué est très mesuré. À ce stade, aucune rencontre avec le pape n'est prévue.
Merci Bruno Duvic, correspondant de France Culture à Rome. À noter également, toujours à Rome, le début de nouvelles négociations entre l'Iran et les États-Unis autour du nucléaire. Les échanges ont repris ce matin sous la médiation d'Oman. Selon la télévision d'État iranienne, il y a une semaine, l'émissaire américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, avait entamé un dialogue avec le chef de la diplomatie de Téhéran, Abbas Araghchi. Les échanges avaient été jugés constructifs puisque les deux n'ont pas échangé directement depuis 10 ans. Mais les autorités iraniennes tempèrent. Quant à Donald Trump, il a réitéré hier ses menaces. Bombarder l'Iran si le régime ne cesse pas l'enrichissement de son uranium, une étape clé pour obtenir une bombe nucléaire. En France, après les coupes budgétaires en cascade dans le secteur de la recherche aux États-Unis, Paris multiplie les annonces pour accueillir les chercheurs américains. Jeudi, le gouvernement lançait la plateforme Choose France for Science pour permettre aux universités et organismes de recherche de déposer des projets d'accueil de chercheurs internationaux sur les thématiques liées à la santé, au climat ou à la biodiversité. Des axes de recherche désormais menacés aux États-Unis. Bonjour Héloïse Weiss.
Bonjour.
Et ce matin, le gouvernement détaille un peu plus ses initiatives en faveur des chercheurs américains.
Par la voix de son ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste. Et il est clair, la France se prépare à accueillir des centaines de chercheurs américains dans ses universités. Face à ce massacre budgétaire aux États-Unis, ce sont ces mots sur France Info. Car à ce stade, c'est la recherche mondiale qui risque de régresser.
Aujourd'hui, quand on coupe de 40% les budgets du NIH, qui est le budget du Grand Institut de la Santé aux États-Unis, ou quand on est en train de supprimer la NOAA, qui est l'agence environnement, climat, météo sur des États-Unis, en fait, c'est des agences qui, derrière, ont des liens extraordinairement forts avec nous, Européens, avec nous, Français. Et donc, derrière, c'est des programmes internationaux qui sont profondément fragilisés.
Pour financer l'accueil de ces chercheurs, il y aura bien un budget spécifique, difficile encore à estimer. En fait, si les salaires des chercheurs américains sont au moins 3 fois supérieurs à ceux des Français, ils varient selon les disciplines.
Un chercheur qui vient chez nous, c'est difficile de faire une moyenne parce que entre un mathématicien comme moi qui vient avec un crayon ou un chercheur en physique nucléaire, c'est les équipements, les environnements sont pas les mêmes. Mais faire venir un chercheur de très bon niveau avec sa petite équipe autour de lui, les ordres de grandeur, c'est quoi? C'est à peu près 1 million d'euros sur 3 ans.
Toute la question est donc de savoir comment la France peut supporter de telles dépenses, alors même que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche vient de voir son budget amputé de 9 millions d'euros pour cette année. Mais pour le ministre Philippe Baptiste, l'effort financier doit se faire au niveau européen. D'ailleurs, dans ce contexte, une rencontre avec des chercheurs du monde entier est organisée par Emmanuel Macron. Ce sera le 5 mai.
Merci beaucoup Héloïse Weiss pour France Culture. C'est une concordance de calendrier, peut-être le début d'une séquence politique menant jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Le Parti Les Écologistes a lancé son congrès hier pour élire sa ou son futur chef de parti. Les Républicains, eux, ont bouclé leur campagne d'adhésion jeudi avant que les militants puissent s'exprimer dans les urnes et élire à leur tour leurs représentants en mai. Enfin, le Parti Socialiste va en faire de même le 15 juin à Nancy lors de son prochain congrès. Les campagnes font l'objet de rivalités pour tenter de faire émerger une tête ou une ligne claire. On en discute avec l'invité de ce journal, Simon Persicaud, politiste, directeur de Sciences Po Grenoble et chercheur au laboratoire Pacte. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Peut-être pour démarrer, pour tenter d'égrener les partis les uns après les autres, commençons chez les Verts, où la motion de Marine Tondelier semble majoritaire, et elle est d'autant plus que des nouveaux statuts doivent lui offrir a priori plus de place dans le Congrès.
Oui, tout à fait. Il y a eu une réforme des statuts dans l'année précédente qui avait pour but de limiter un peu ce jeu entre des tendances, des motions, et donc donner plus de poids à la liste qui arrive en tête, et notamment à la chef de cette liste, là, Marine Tondelier, pour ce cas. Donc ça augure une victoire assez large, notamment dans l'exécutif, le gouvernement du parti. Elle devrait disposer d'une majorité très large.
Au PS, les enjeux sont un tout petit peu différents, si j'ai bien compris. On sait Olivier Faure prêt à une plateforme commune avec les autres partis de gauche en 2027, hors LFI. Comment se positionnent les oppositions à Olivier Faure, notamment sur sa droite ?
Il y a toute une petite nébuleuse à droite. Hein. On avait déjà vu là au congrès de 2023 l'affrontement entre Nicolas Maillard-Rossignol d'un côté et Olivier Faure de l'autre. Et là, cette fois, en plus, il y a Boris Vallaud qui est un peu entre cette opposition de droite qui était divisée mais qui semble s'unir. Et donc la question, ça va être où va aller Boris Vallaud ? Est-ce qu'il va continuer à être tout seul, une sorte de troisième force ? Ou est-ce qu'on va aller vers un affrontement gauche-droite, où la question principale, c'est celle de l'alliance avec la France Insoumise ? Sachant que le défi, c'est quand même que les alliances avec la France Insoumise, notamment lors des législatives, c'est ce qui a permis aux socialistes d'obtenir un certain nombre de sièges de députés, et que la rupture de cette alliance a un risque électoral marqué.
Oui, quel est le poids de l'aile droite du PS ? On pense à Nicolas Maillard-Rossignol, qui avait été annoncé en discussion avec Philippe Brun ou Hélène Geoffroy ces derniers temps, ou Carole Delga, François Hollande. Que pèse cette aile droite par rapport à Olivier Faure ?
Ouais, c'est toujours dur de dire, parce que justement, c'est bien pour ça qu'il y a un congrès, c'est pour évaluer les rapports de force. Donc là, les socialistes, ils sont un peu moins de 50 000 adhérents. On ne sait pas exactement comment ont évolué ces adhérents depuis le dernier congrès, il y a un peu plus de 2 ans. Et donc, et encore une fois, la variable un peu d'ajustement sur est-ce qu'on va aller vers un affrontement binaire, c'est justement ce Boris Vallaud qui se situe un peu au centre de ça, qui cherche à rassembler, mais qui visiblement est un peu pris en tenaille aussi d'une certaine manière. Donc s'il fait la bascule du côté d'Olivier Faure, il y a de fortes chances qu'Olivier Faure puisse être conduit assez facilement. Et s'il fait la bascule à l'inverse du côté de la droite du parti, ça donnera beaucoup de force à cette partie-là, même si on ne sait pas encore quel serait son représentant ou sa représentante.
Bon, si on bascule du côté droit de l'échiquier politique, c'est un peu plus simple, j'ai l'impression. Côté LR, on a Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau qui se sont lancés à priori dans une lutte de personnalité essentiellement. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Oui, tout à fait. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'éléments distinctifs, si ce n'est qu'effectivement avec cette proposition assez ubuesque, il faut bien le dire, de mettre les OQTF sur le territoire de Miquelon, il a droitisé un peu cette campagne-là, mais sachant que les deux étaient sur des positions assez droitières, en fait, en regardant plutôt vers l'électorat du Rassemblement National plutôt que vers le centre. Donc sur le fond des idées, il n'y a pas de grande distinction et ça se joue beaucoup sur la personnalité et un peu, je pense, quand même la distance avec le gouvernement, évidemment. Hein, c'est sur ça que joue Laurent Wauquiez en disant qu'en participant au gouvernement, un président des Républicains n'aurait pas une sorte de latitude pour pouvoir avoir une position claire et libre des Républicains.
Peut-être pour terminer, une question en deux temps. Est-ce que ces élections internes peuvent ouvrir une séquence, je le disais, jusqu'en 2027 et quel effet peut-elle avoir sur la constitution d'une ligne programmatique ? On sait que parfois ces moments de congrès peuvent être un moment de radicalisation. Est-ce qu'il faut être plutôt dans un moment de proposition un peu radicale justement par rapport à ces militants ou bien dans une sorte de point d'équilibre ?
Là, de toute façon, les congrès, ça a toujours, les gens s'adressent à l'interne. Ils s'adressent à leurs adhérents. On parle de 100 000 personnes pour les Républicains, 50 000 pour le PS et 20 000 personnes pour les Verts, à peu près. Enfin, les écologistes. Donc, leur but est de mobiliser ces gens-là. Sachant que il n'y a pas forcément de logique de distinction. Donc, ils cherchent plutôt à se positionner au barycentre de leur parti, en l'occurrence. La différence avec le PS, où là, le PS, il y a clairement une ligne d'opposition, mais elle est plus stratégique. On n'entend pas beaucoup parler de différence sur le fond, sur les politiques publiques qu'il faut mener. Elle est vraiment liée à quelles sont les formes d'alliance qu'il faut tisser, notamment la question de la France insoumise. Et chez les Verts, à l'inverse, là, c'est pareil. On voit bien que Marine Tondelier, qui est très centrale, elle est attaquée un peu à sa droite par les partisans, par exemple, de Yannick Jadot, un peu à sa gauche. Et donc, elle est vraiment au barycentre de son parti sur le fond. Mais il y a peu de discussions sur le fond. C'est essentiellement des discussions de stratégie politique très peu programmatique, en fait.
Merci beaucoup, Simon Persicaud. Je rappelle que vous êtes politiste, directeur de Sciences Po Grenoble et chercheur au laboratoire Pacte. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci à Louise Guérin pour la préparation. On termine avec un mot du temps pour ce samedi. Ensoleillé à l'est, pluvieux à l'ouest. Vigilance quant aux orages pour un tiers central de Paris à Perpignan. Il fera 17 degrés à Lille, 12 à La Rochelle et 20 à Marseille.